nous vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, La troisième époque de violence et crépuscule, L'élu. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. Musique originale de L'élu, Lionel Morzetti. La mer se remet petit à petit. Elle dit à Maurice :
Tu sais, j'ai failli le perdre. On m'a mené d'urgence à la salle d'opération et j'ai perdu connaissance après qu'on m'ait fait une piqûre. Et je me suis réveillé. On m'a dit que j'avais de la chance, que l'enfant se portait bien. Et depuis, j'ai été constamment surveillé, bien soigné, constamment, on s'est occupé de moi.
Une fois que le père peut emmener la mère et le bébé en voiture sans risque, Fuyet a dit à Maurice que sa femme était encore très faible pour s'occuper du bébé et qu'il devait prendre une infirmière pour s'occuper du petit. Maurice lui a demandé pourquoi il était si bon pour eux. Il lui dit « Parce que j'aime beaucoup les enfants. J'ai pas eu la chance d'en avoir et j'ai perdu ma femme en couche. Alors, je sais ce que c'est. Désormais, je fais tout pour aider les mères et les enfants. » Et Maurice part avec une infirmière. Ils retournent chez eux, à la maison. L'infirmière resta un an chez eux. Depuis la naissance de son enfant, la chance vint dans la famille, que par enchantement, on le couvrait de respect, de travail à faire. En plus de ses maisons individuelles, il eut des HLM à construire. Mais là, ce n'était plus de la réhabilitation, mais du neuf. Puis la mairie lui donnait du travail. Il eut de plus en plus de commandes. Il fut obligé, c'est de s'agrandir. On lui proposa un prêt à un très bon prix. Le prêt, c'était la banque elle-même qui le lui proposa. Au fil des années, il s'agrandissait, connaissait de plus en plus d'hommes influents et de confiance. Une personnalité en amenait une autre, ça faisait boule de neige. On lui disait au début, « Votre fils est né à la clinique, jeune tout ricain. » Comme si on lui avait dit, « Votre fils est à l'école, un tel. » Il était de plus en plus courtisé, invité chez des gens très très importants. Ses commandes grandissaient. Alors que les autres entreprises n'avaient presque rien à faire, lui était bombardé de travail. Pour les appels d'offres, c'était toujours lui que l'on prenait. On lui fit comprendre, vu son importance, que sa femme ne devait plus travailler et avoir des gens pour l'aider à l'entretien de la maison. Car madame devait sortir et voir des amis. On lui dit de déménager, d'aller à Paris. Prendre un siège dans un quartier très chic et de même de le construire. La ville de Paris lui dit qu'il y avait un terrain, avenue de l'Opéra, qu'on lui vendait à très bon prix parce que c'était lui. Il construisit son siège, déménagea, acheta une belle maison avenue Velasquez près du parc Monceau. Et le temps passa. Il fit la connaissance de ministres, du président de la République. Se lia d'amitié avec certains, présenta à l'Élysée, à l'étranger, était invité dans des voyages officiels que faisait le président de la République. L'enfant grandissait, il était très très beau, intelligent. De temps en temps, le directeur de la clinique, jeune tout ricain, venait le voir et décida que tous les mois, il verrait un médecin pour l'examiner, mais qui semblait en parfaite santé.
Monsieur, monsieur, monsieur. C'est bien. quoi d'être là?
C'est bien, vous pouvez vous rasseoir.
Puis,
je dis Monaghan à vous.
Pour l'école, on proposa pour le fils une école privée, la plus chic, la plus chère de France.
Vous n'avez pas
une école de jésuites dans la banlieue parisienne, où l'on forme des enfants à devenir de vrais pourquoi hommes du monde. J'aime on leur apprend le cheval, tennis.
Non, monsieur. Nous non plus, on n'aime pas. C'est vieux, c'est laid, c'est mort.
Le maintien, etc., etc. Ce père avait de bonnes dispositions.
De beauté, votre goût est
son père était heureux.
Vous êtes
il se dit que plus tard, il allait lui succéder.
Eh bien, vous irez expliquer ça, madame.
Malheureusement, l'enfant, en grandissant,
apprécié à sa juste valeur votre goût pour les textes classiques.
En devenant un adolescent, eut un caractère plus rêveur que celui de son père, n'était absolument pas intéressé à ce qu'il faisait. Son père était triste de le voir s'enfermer dans sa chambre à écrire. Il posait des questions à son fils et vit que l'enfant n'était absolument pas intéressé par le bâtiment.
Je te m'en doutais, hein.
Ils sont agiles, cette blague.
Non, en anglais, McCroy.
Mais c'est pas une question que je vais poser là-bas, je saurais quand même bien où je suis.
Au fait, par quelle ville arriverons-nous? Los Angeles?
Mais non, on va pas se taper le tour de la planète pour toucher les États-Unis. Macron, il nous faut...
Dites, monsieur Planet, les suppositoires à l'eucalyptus, ça peut faire mourir?
L'entreprise de son père, c'est-à-dire Maurice, devenait de plus en plus importante et son fils ne s'en occupait pas. Maurice, à son bureau, s'est rappelé tout ça. Il se dit qu'il faut absolument que Gilbert puisse prendre la succession. Et puis, il y a aussi cette histoire de manque de cadre. Je suis bloqué à cause de ça. Au lieu de former des jeunes pour être des employés de bureau, vendeurs, on ferait bien de les former pour la fabrication, parce qu'autrement on ne pourra plus fabriquer faute de main d'œuvre spécialisée. Il soupire, regarde sa montre, se lève et sort du bureau. va rentrer chez lui. Il se dit qu'il profite guère de sa fortune. Il passe son temps à travailler. Les jours passent. Un matin, Elisabeth est dans son salon et finit de prendre son petit déjeuner. Elle est seule. Son mari et son fils sont partis. On dit que l'on est seul même lorsque la maison est pleine de domestiques. Parce qu'un domestique, ce n'est pas une personne, c'est, disons, une chose. On frappe à la porte.
Entrez !
Entre la bonne. Avec le courrier qui est sur un plateau en argent. Elle va le déposer sur la table basse. Elle se retire. Charlotte regarde le courrier. Il y a les journaux. Le Monde, pour faire intelligent, Libération, pour faire gauche, Intello, caviar, le Journal de Paris, pour voir ce qui se passe dans sa ville et pour pas faire province, le Figaro, pour être du bon goût et du bon beurre. Elle déplie les journaux et regarde les gros titres. Elle se dit que c'est toujours la même chose. La guerre civile entre noirs en Afrique à coups de hachette. La Russie en ruine. L'Inde qui se bat où les populaces se battent entre religions. Le chômage, la misère dans le monde. Pour ce qui est de la France, on ne parle plus de chômage puisqu'on a décidé que ça n'existait plus. Elle se dit qu'ils ont eu une bonne idée, que pour résoudre un problème, il faut le nier. Et officiellement, il n'y a plus de chômeurs en France, malgré qu'il y ait des milliers de sans-emploi. Puis, elle regarde les lettres. Facture, comme d'habitude. Des invitations de partout, comme d'habitude. De la pub. Et une lettre écrite à la main. Elle l'ouvre. Elle lit. C'est une offre pour la vente d'un château du 18e à Oullins, près de Lyon. Une très bonne offre. Le château est à 10 minutes du centre. Très beau château dans un grand parc en bon état. Nombreuses pièces, 50. Sous-sol, grenier, salle de bain, 10 salles de bain, etc., etc. Ce château est à un prix très raisonnable. Et il est marqué, nous avons la joie de vous dire que vous avez gagné le privilège de l'acheter. Charlotte se dit,
comme pour les trois Suisses ou la redoute ou le privilège d'acheter. Ces commerciaux se prennent pour des anciens rois de France.
Il y a des photos en couleur. Elle les regarde bien. Bien sûr, le parc est très joli et présenté en automne pour mieux montrer les belles couleurs des arbres. Le parc semble blanc, semble grand et l'on montre beaucoup d'arbres. Le château a une belle façade blanche avec terrasse pour accéder à l'entrée. Très joli. Trois étages. L'intérieur, parquet luisant, escalier de pierre, cheminée de pierre, meubles qui semblent Louis XV, tout est beau, impeccable. Elle se dit, nous n'avons pas besoin de château. Elle regarde l'enveloppe.
C'est une bonne idée que de mettre l'adresse à la main. Comme cela, les gens se demandent ce que c'est que cette lettre et ils l'ouvrent. Tandis que si ça avait été présenté comme une pub, il aurait jeté sans la lire.
Bon. Elle laisse sur le plateau les pubs. Elle prend les factures. Se lève. Et sort du salon. Pour aller porter dans le bureau de son mari, c'est lui qui verra tout ça. Parce que malgré qu'il y ait un prélèvement automatique par carte et ordinateur par paiement aussi, pour les grandes sommes, l'on prévient à l'avance le débiteur pour qu'il puisse voir s'il y a assez d'argent sur son compte. Cela évite les dettes. Elle entre dans le bureau et dépose les factures sur le bureau. Dans la journée, Elisabeth est dans son salon, assise dans un fauteuil. La sonnerie du téléphone retentit. Elle décroche.
Allô ? Oui.
Bonjour madame, nous sommes l'agence Devaux. Nous vous téléphonons pour savoir si vous avez reçu notre courrier. Elle lui demande,
quel courrier, monsieur?
Le courrier qui vous donne le privilège d'acheter le château d'Oulin. Elle fait,
ah oui, je vois.
Est-ce que vous êtes intéressé?
Non, pas du tout. Je n'ai rien à faire à Oulin.
Il lui dit, c'est bien dommage pour vous. Car Lyon sera bientôt reconstruit par votre mari et il aura besoin d'un petit pied-à-terre pour avoir des bureaux là-bas. Cela lui évitera l'hôtel. La fête des pères est proche. Voilà un cadeau utile à votre mari et lui prouvera que vous vous intéressez à ses affaires. Alors, qu'en pensez-vous ?
Elle lui dit, « Non, merci, c'est un cadeau trop cher et encombrant. »
Il lui dit, « C'est dommage pour vous. Si vous changez d'avis, contactez-nous. Mais attention, l'offre ne durera pas longtemps. Après, il augmentera de 25%. Merci, monsieur. Elle décroche. Elle se dit, les affaires doivent aller certainement très mal pour être si insistant. Est-ce que mon mari fait la même chose? Elle résolue. Bon anniversaire, mon chéri. Et un château. Les fêtes vont coûter cher. Plus tard, au petit déjeuner, elle dit à la bonne « J'ai décidé, c'est d'organiser une soirée. » Son mari la regarde et lui dit « Encore ?» Elle lui dit « Cela fait longtemps que nous n'avons pas fait une et ça manque. »
« À qui ?»«
À nos connaissances. »
« Ils te l'ont dit ?»«
Non, cela ne se dit pas. »«
Eh bien ?»
« Nous manquons de tact, nous n'en faisons pas une de temps en temps. » Ton mari lui demande.
« Je ne comprends pas. »
« Nous manquons de tact parce que nous n'invitons pas nos amis. »«
Bon, eh bien, fais comme tu veux. »
Elle lui dit. « Je compte sur vous. »
Maurice dit. « Cela dépendra de mes rendez-vous. »
Gilbert lui dit. « Moi, tu sais, tes trucs, là, ça ne m'intéresse pas beaucoup. » »«
Eh bien, tu viendras tout de même. » Vous n'allez tout de même pas me laisser seul recevoir.
Gilbert lui dit, bien, nous verrons, mais fais simple. Elle lui dit,
oui, très simple. Il y aura juste que de la musique moderne et un buffet.
Et elle commence à envoyer ses invitations, à commander ce qu'il faut, tracteur, orchestre, etc. Gilbert en parle à Nathalie au café. Tu viens? Tu me tiendras compagnie? Elle lui dit. Mais ne reste pas toute la soirée. C'est tellement vieux jeu tout ça. Gilbert lui dit, je te le promets. Elle lui demande, mais pourquoi est-ce que ta mère organise-t-elle ces choses? Il lui dit, parce qu'elle se croit obligée à cause de la place qu'a mon père dans le monde. Elle lui dit, ton père aime ça? Non, absolument pas. Et la plupart du temps, il n'a même pas le temps d'y être. Alors, elle continue à organiser ça. Elle organise ses soirées. Elle lui demande. Ami de ton père aime ce genre de choses? Non, mais ils y vont pour leur faire plaisir. Eux aussi sont très pris par leur affaire, ils s'en passeraient bien. Elle lui dit. Donc les soirées de ta mère ennuient tout le monde? Il lui dit. Oui. Elle lui dit. Elle devrait arrêter.
Votre invitation, monsieur.
Ça va, Marc. Il est avec moi.
Ravi de vous voir, Clémence.
Une semaine plus tard, la soirée a lieu. toute la maison est illuminée. On a ouvert les portes, enlevé des meubles pour faire de la place. Les salons, la salle à manger ont été ouvertes en enfilade pour faire une grande pièce. On a un orchestre sur une estrade, des tables basses, un buffet avec boissons, etc. Chaises dans les coins des salons, vestiaires à l'entrée. Tout est bien organisé. Charlotte a mis sa robe rouge. Gilbert est en smoking noir à côté d'elle à recevoir les invités devant l'entrée.
Vous donnez des leçons au club.
Le père de Gilbert viendra plus tard. Il y a du monde. Bien sûr, les francs blancs, ce sont des gens, lorsqu'ils invitent, on ne doit pas te refuser l'invitation. Ce sont des gens très influents, les plus influents de France. Il y a dans la soirée les mêmes invités, des ministres, des industriels, des artistes. Ils y vont tous, c'est pour voir des gens et peut-être même discuter à faire. Bien sûr, aussi manger, parce que par le temps qui court, cela compte. Tout le monde aimerait faire affaire avec les francs blancs. Les femmes aimeraient sympathiser avec la mère. Les filles, être aimées par Gilbert. Comme dit voici, le petit prince au visage d'ange, d'après un sondage, a été élu le plus beau garçon de son temps. Il est sûr qu'il est très beau. Les anciens disent qu'il est plus beau que Galien Diap, qui lui était déjà très beau. Gilbert semble ressembler beaucoup à Galien. Il a ses cheveux, ses yeux, son petit nez, ses petites oreilles. Mais le reste est encore plus délicat et beau. Des journaux lui ont demandé de poser pour eux. Il a refusé. Le magazine Louis voulait qu'il pose nu. Il a dit que non, que son corps n'était pas beau et athlétique, ce qui est faux. Bien entendu, dans la soirée, il y a des journalistes qui sont là pour commenter la soirée, car une soirée en blanc est un événement. En fait, la mère a raison. Ça fait une soirée pub gratuite pour son mari. Car grâce à la soirée, tous les journaux du monde vont parler d'eux.
Il est là ce soir.
Les journalistes sont accompagnés de photographes et de caméramans. La mère leur a dit « Je vous laisse faire, mais ne gênez pas les invités !» Le célèbre journaliste Pierre-Max Roussillon est venu. Tout le monde le connaît parce qu'il est toujours habillé de son imperme beige, pas lavé depuis 30 ans.
Vous faites de la voile ?
J'ai appris avant de savoir marcher.
Et de son allure bizarre. Petit, maigre, visage osseux, cheveux épais blancs, lunettes et loupes, basket blanche, enfin qui a été blanche, et sa natte pourrie qu'il transporte toujours avec lui.
Je crois qu'il faut que je rentre.
Dedans, il a des piles de cassettes et de vieux disques, et un espèce de machin, un vieux machin en métal bizarre pour enregistrer. Et pour ton émission à l'écoute du monde, vieille émission qui a peut-être 25 ans ou plus. Pierre-Max va à la soirée, c'est surtout pour le buffet. Il se met à côté du buffet et il mange et boit.
Ça avait l'air d'aller, tous les
cela lui permet de manger, car il n'a pas beaucoup d'argent et il ne mange qu'un McDo à midi. Gilbert voit arriver Nathalie en robe du soir blanche. Elle est très belle. Bonjour Nathalie. Bonsoir. Il s'embrasse. Il l'amène vers sa mère. Bonjour madame.
Bonjour Nathalie. Vous êtes très belle.
Merci madame. Elle lui dit.
Allez vous amuser mes enfants. Les invités doivent être tous arrivés. Je reste encore 5 minutes pour le retardataire, puis je m'éclipse pour aller voir mes amis.
Gilbert prend la jeune fille à la main et lui dit « Tu veux danser ?»« Oui. » Et ils vont danser. Nathalie dit « Ta mère m'a bien reçue ?» Gilbert lui dit « Tu vois, elle va finir par t'accepter. »
« C'est cette maudite ange.
Après avoir dansé, ils vont au buffet prendre une coupe de champagne. Tout à coup, ils entendent « Qu'elle est jolie !» Ils se retournent et voient Pierre-Max. « Bonjour, je m'appelle Pierre-Max. Je fais une émission de radio à l'écoute du monde. Mimi !» Il se penche sur Nathalie et lui donne un baiser sur la joue. Elle est surprise mais ne dit rien. Et Pierre-Max voit Gilbert. Il lui dit « Oh mon Mimi, Mimi, Mimi !» Il veut l'embrasser mais Gilbert se dégage. « Tu n'es pas sage !» Il lui prend la main, la papote, lui donne un baiser. Gilbert est surpris. Pierre-Max lui dit « C'est un baiser de paix, de chrétien !» Et veut lui donner un baiser sur la joue. Nathalie rit. Pierre-Max caresse le dos de Gilbert. Femme, à cheveux blonds, grande, mince, en robe du soir verte, tête de cheval, les voit et dit à Gilbert « Oh, vous connaissez Pierre-Max ? Il est très affectueux. Félicitations, Pierre-Max. Petit coquin, femme, tu t'es choisi le plus beau garçon de la soirée. Je vais voir ce qu'il me reste. Ah, peut-être. Jacques, Jacques. Je vois Jacques. Viens, Jacques. » Et Gilbert la voit aller vers un grand garçon, mince, cheveux chantins, en brosse, tête ronde, lunettes métal et smoking noir. Elle lui dit « Jacques, fais-moi danser, mon vilain, va, cela fait 2 mois que j'attends ta visite. » Elle le mène danser. Gilbert demande « Qui est cette femme ?» Pierre-Max lui dit « On ne sait pas, mais on la voit de temps en temps, comme ça. Elle aime beaucoup les jeunes gens. » Il dit, en tapotant la main à Gilbert, « Des jeunes gens comme toi, mon Mimi !» Gilbert arrive à se dégager la main. Pierre-Max lui dit, « J'aimerais interviewer ton père. J'ai déjà fait plus de 5000 interviews, même De Gaulle et Galiandia. Lui, qu'est-ce qu'il était beau !» Malheureusement, Arlette Laguiller n'est plus là. Elle est morte il y a 10 ans. Vous savez comment elle est morte? Non. Eh bien, elle s'est étouffée en mangeant du caviar. À une soirée, j'ai des intellos de gauche, bon chic, avec qui ont beaucoup d'argent. La gauche riche, caviar. Alors, je peux interviewer votre père? Gilbert lui dit, mon père a très peu de temps. Eh bien vous alors? Mais moi je n'ai rien à dire. Eh bien vous direz que vous n'avez rien à dire. C'est suffisant pour mon émission et pour garder un interview. C'est d'accord? Gilbert lui dit, bon, allez-y. Pierre-Max sort dans son sac Fnac, tout crasseux, un appareil bizarre que l'on se servait avant pour faire des interviews. Il y met une cassette et met l'appareil sur le nez de Gilbert qui est indisposé car l'appareil sent mauvais et sent l'humidité. Attention, je mets en route. C'est du mono et ça marche pas bien. Voilà. Eh bien, bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs. Ce soir, je suis dans la maison personnelle de la famille Framblanc. La prodigieuse famille que vous connaissez tous et que vous savez que c'est la plus grosse fortune du monde. Il y a une soirée dans cette très belle maison avec plus de 500 invités. N'est-ce pas, monsieur Gilbert Framblanc? Oui, je crois. Parce que j'ai à côté de moi monsieur Gilbert Framblanc qui a bien accepté de se faire interviewer pour mon émission à l'écoute du monde. Qu'avez-vous à nous dire, monsieur Gilbert Framblanc? Rien. Eh bien, merci de nous avoir permis de vous interviewer, monsieur Gilbert Framblanc. Pierre-Max appuie sur stop, sort la cassette et range son appareil. Gilbert se marre à lui demander, ça suffit? Oui, je ne suis pas repeint. Et puis, c'est pour la radio. Ils sont de gauche et moi de droite. Gilbert prend Nathalie par le bras et s'éloigne. Charlotte voit venir à elle une belle femme, grande, mince, cheveux blonds, visage envoûtant, sensuelle, avec de grands yeux bleus et des lèvres extrêmement sensuelles. Elle est habillée d'une robe du soir noire qui la moule à merveille. Elle lui dit « Je suis Florence de Sage. » Enchantée, et moi Charlotte Franblanc. Elle lui dit « Je sais, vous êtes une femme très connue. » Charlotte lui dit « Oui, hélas, cela me donne beaucoup de travail. » « Comment ?»« Je suis très sollicitée par des tas de gens, au téléphone, par courrier, l'on sonne à ma porte. Je ne peux pas faire un pas dehors sans qu'une personne vienne vers moi pour proposer une affaire. Je ne sors presque plus. Moi qui aimais aller aux Galeries Lafayette, je n'y vais plus. C'était la foule autour de moi. Le directeur du magasin m'a dit que de ne plus venir au jour d'ouverture, mais après, dans la soirée. Alors j'ai fait mes courses lorsque le magasin est fermé. Bali des Champs-Élysées, lorsque j'y vais chez lui, fait comme pour le roi du Maroc. Il ferme son magasin. C'est très désagréable, surtout pour une personne comme moi qui n'aime pas déranger. Florence lui dit, je vois, et vous devez être sollicité pour des tas de choses bizarres. Enchantée, et moi Charlotte Franblanc. Elle lui dit, je sais, vous êtes une femme très connue. Charlotte lui dit, oui, hélas, cela me donne beaucoup de travail. Comment ? Je suis très sollicitée par des tas de gens, au téléphone, par courrier, l'on sonne à ma porte. Je ne peux pas faire un pas dehors sans qu'une personne vienne vers moi pour proposer une affaire. Je ne sors presque plus. Moi qui aimais aller aux Galeries Lafayette, je n'y vais plus. C'était la foule autour de moi. Le directeur du magasin m'a dit que de ne plus venir au jour d'ouverture, mais après, dans la soirée. Alors j'ai fait mes courses lorsque le magasin est fermé. Bali des Champs-Élysées, lorsque j'y vais chez lui, fait comme pour le roi du Maroc. Il ferme son magasin. C'est très désagréable, surtout pour une personne comme moi qui n'aime pas déranger. Florence lui dit, je vois, et vous devez être sollicité pour des tas de choses bizarres. Ne m'en parlez pas, ça va des descentes de lit au four des aciéries. Tout ce que les gens ne veulent pas ou ne peuvent vendre, ils veulent me le refiler. Ils doivent se dire qu'ils sont riches, ils peuvent acheter n'importe quoi. Oui, je vois. Que de publicité vous devez avoir dans vos boîtes aux lettres. Charlotte lui dit, j'en jette des kilos par jour. Certains ont trouvé un truc pour qu'on lise leur pub. C'est de faire croire que ce n'est pas de la pub. Comment ils font? C'est très simple. Ils mettent la pub dans une enveloppe écrite à la main avec un timbre. Elle lui dit, très astucieux, Charlotte lui dit. Je me suis fait prendre, il y a de cela une semaine, on proposa un château. Vous pensez à un château de notre époque, et en plus de la lettre, ils ont le culot, c'est de vous téléphoner pour savoir si vous avez bien reçu la pub, leur proposition. Et disent même que ça fera un beau cadeau pour la fête des pères. Vous pensez d'un cadeau? Florence lui dit, cela dépend. Parce que ça peut être une bonne affaire. Mon père a acheté un château en Normandie de toute beauté. Il l'a transformé pour les séminaires et ça lui rapporte gros. Il est où votre château? Charles lui dit, ce n'est pas mon château. Il est dans un bled du côté de Lyon. Je crois que ça s'appelle Oulin ou quelque chose comme ça. Florence lui dit, je ne connais pas. Charlotte dit, oh, vous voyez, mais je connais Lyon. Moi aussi, mais ce n'est pas Paris. c'est tout de même la deuxième ville de France. Charlotte lui dit, la deuxième, si vous êtes de droite, et la troisième, si vous êtes de gauche, il y a Marseille. Florence lui dit, Marseille gonfle et dégonfle. Il gonfle plutôt, c'est une ville d'immigrés, pas pour nous. Vous avez raison, Lyon c'est tout de même mieux. Florence lui dit, il est bien château. Charlotte lui dit, je ne sais pas, je ne l'ai pas visité. D'après les photos, c'est toujours bien. Ils ont même photographié le parc en début d'automne. C'est plus joli avec les feuilles. Florence lui dit, ah bien y penser, c'est peut-être une bonne affaire. Vous croyez? Oui, Lyon va devenir une très grande métropole. On parle des capitales de toutes les Gaules. C'est tout de même quelque chose, non?
Oui, bien sûr.
Florence continue et lui dit, de nouvelles technologies vont s'implanter là-bas. Et c'est un lieu très important historiquement. Il y a eu les Pontois, Hautebord, Gap et beaucoup d'autres. Si vous ne voulez pas faire ce cadeau à votre mari, faites-le à votre fils. Ce sera un bon placement pour lui plus tard. Charlotte lui dit, pourquoi mon fils?
Les jeunes n'aiment que le moderne.
Elle lui répond, pour le moment. Et puis, peut s'en servir pour de l'argent. C'est sûrement un lieu historique. Charlotte lui dit, je vais réfléchir. Florence lui dit, il faut toujours bien réfléchir à une bonne offre. Toujours bien réfléchir. À une bonne offre, toujours. Et elle s'éloigne. Elle sort de la maison à l'anglaise. Dehors, elle entre dans une grande voiture noire. Et dit au chauffeur,
non, allons, la soirée n'est pas finie.
Nous vous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Junier Jean-Pierre, La troisième époque de Violence et Crépuscule, L'élu. Production, mise en scène, Junier Jean-Pierre, enregistrement CVRP. Musique originale de L'élu, Lionel Morzetti.